Laissez vos sens s'éveiller grâce à l'écoute alléchée. Un programme espiègle, léger, coquin, qui se veut aussi curieux et interrogateur. Laissez-nous vous emmener faire le tour des courbes et des brèches du désir et prendre la destination du plaisir. Cette programmation est évidemment réservée à un public mature. Embarquement imminent pour l'écoute alléchée, l'écoute alléchée sur RDIWA 107.5.
Bienvenue à vous dans l'écoute alléchée, dans le 8e épisode de cette émission nommée par Piment, Cupidon a plusieurs cordes à son arc. Vous avez l'image de Cupidon avec son arc à multiples cordes et où on veut vous emmener? Non? Eh bien, restez avec nous et vous allez comprendre. Salut les petites épices!
Salut! Salut.
Bonjour!
Vous allez bien?
Ouais!
Trop bien!
Super! Alors, de nos jours, on a l'image de Cupidon et de son arc qui distribue des flèches à tout va, dans tous les sens, mais seulement l'une après l'autre. Alors, le lien entre Cupidon et l'émission de ce soir, c'est cette fameuse fête qui arrive à grands pas, la Saint-Valentin. Mais plus précisément, tout le questionnement autour des modèles de nos relations amoureuses. On vit, depuis que l'Église catholique en a décidé ainsi, sur un modèle de monogamie sérielle. On enchaîne les relations en espérant que la prochaine soit enfin celle pour la vie. Sauf que depuis la révolution sexuelle, l'humain tend à vouloir éclater, bousculer des modèles en place et remettre facilement en question, évoluer avec l'idée que beaucoup de choses doivent être repensées parce que ce qui fonctionnait à une autre époque n'est peut-être plus valable. L'idée principale dans notre vision judéo-chrétienne est d'être en couple avec quelqu'un et de vivre un amour et une sexualité unique, unilatérale. Plus forcément pour toute la vie parce que ça c'est un schéma déjà périmé. Lorsqu'on n'est pas en couple, beaucoup de gens nous le souhaitent. « Ton tour viendra », comme on entend souvent. Ou bien « Alors, les amours ?» Notez ici qu'on utilise le pluriel, mais que personne ne souhaite savoir quelles ont été nos relations sexuelles ou flirts récents. La question sous-jacente est bien « Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ou quelqu'une ?» Il y a aussi le fameux « Toi aussi tu trouveras celui ou celle qui fera ton bonheur, ta moitié. » Mais de quel bonheur on parle là ? Est-ce que ça dit que le bonheur n'existe qu'au travers d'une seule et unique relation? Que sans l'autre, on n'est pas heureux? Et que cet autre devrait être notre tout pour toute la vie? Comme je le disais précédemment, nos schémas ont changé et l'on multiplie désormais les rencontres, on les enchaîne. Est-ce qu'on cherche à travers toutes ces rencontres à être heureux, plus heureux, heureux d'une autre manière? Pourquoi ne pas réfléchir sur toutes les formes existantes de comment vivre son amour? Dans la question « Comment vivre son amour ?», entendez surtout « Comment partager votre amour propre avec les autres ?». Il existe évidemment plein de manières de le faire. On connaît tous la monogamie, et encore plus la monogamie en série, mais il existe aussi le libertinage, le polyamour, l'échangisme, le couple libre, et bien d'autres choses encore. Alors ce soir, on va prendre le temps de parler de tout ça au travers de témoignages, interviews et réflexions. À tout de suite.
T'allais te marier,
j'étais engagé,
route toute tracée,
chemin dégagé,
Cupidon lancé,
ne m'a pas loupé.
Chaloupée,
C'était Jojoa et Lieutenant Nicholson avec Cupidon. Vous êtes toujours dans l'écoute alléchée au 107.5 sur RDWA. Alors, des chœurs pour les amoureux seront disponibles à partir de samedi. Ça, c'est ce que titrait une annonce d'un artisan faisant de la publicité pour ses créations la semaine dernière. Des chœurs pour les amoureux. Ce qui m'a personnellement toujours déplu dans la Saint-Valentin, c'est qu'elle serait a priori réservée à un seul modèle de couple et à une seule date. Alors qu'une réflexion sur tout ce qui tourne autour de cette fête était déjà en route dans ma tête depuis bien longtemps, cette phrase « des cœurs pour les amoureux » est venue me percuter et a enclenché tout le cheminement de la réflexion suivante. Saint-Valentin, fameuse fête des amoureux, fête instaurée le 14 février sur nos calendriers et qu'on nous commercialise à grands coups de publicité pour tel ou tel produit. Plus je la répète en boucle dans ma tête, plus elle se transforme. La Saint-Valentin, fête des amoureux, devient Saint-Valentin, fête de tous les amoureux, puis de tous les gens qui se sentent amoureux, et puis de tous les gens qui s'aiment, entendez eux-mêmes, et qui partagent leur amour, d'une manière ou d'une autre. Donc potentiellement de tous les gens sur cette terre. Si on parle des amoureux, alors on est plein à en faire partie, peu importe comment et à combien on vit nos histoires amoureuses. D'ailleurs, c'est quoi une histoire amoureuse ? Comment est-ce qu'on peut définir de manière générale un truc qui appartient à chacun de le définir ? Alors, à partir de ma réflexion, j'ai voulu connaître l'origine de cette fête. Et je me suis évidemment penchée sur l'histoire. Et j'ai remarqué que nous sommes loin de l'initiale fête instaurée dans l'Antiquité. À retracer le passé, on comprend beaucoup de choses, et peut-être la manière cyclique qu'ont les choses à revenir. Donc pour revenir sur le passé et bien comprendre l'histoire, avec un grand H, qui nous a emmenés jusque là où on en est de nos jours avec cette Saint-Valentin, on doit remonter jusqu'à l'Antiquité, période à laquelle la conception de l'amour et du couple était tout autre. À la lecture d'un livre intitulé « Sexus Joyus » de Vicky Léon, j'ai pu apprendre qu'ils considéraient le fait d'être amoureux comme dangereux pour le couple. Pour eux, ces passions étaient néfastes à l'union conjugale. Le mariage était un contrat économique et modèle d'amitié. Ils vivaient alors d'autres histoires amoureuses hors contexte conjugal. Donc lors de la Saint-Valentin, dans la Rome antique, on fêtait les Lupercales. Alors c'est quoi les Lupercales ? C'est une fête annuelle célébrée par les Luperques, qui sont des prêtres de la Rome antique, près d'une grotte nommée le Lupercale. Cette fête était en l'honneur de Faunus, le dieu de la forêt, des troupeaux, des plaines et des champs. Cette fête était une fête de passage, de purification qui avait lieu du 13 au 15 février, c'est-à-dire à la fin de l'année romaine qui commençait le 1er mars. Et qu'est-ce qui se passait pendant cette fête ? Eh bien, deux jeunes hommes, vêtus uniquement d'un pagne en peau de bouc, assistaient à la cérémonie. Le prêtre sacrificateur leur touchait le front de son couteau. Le sang ainsi répandu était essuyé par un flocon de laine trempé dans du lait. Et à ce moment-là, les jeunes gens devaient rire aux éclats, puis courir dans toute la ville de Rome. Ils étaient armés de lanières taillées dans la peau de bouc sacrifiée, avec lesquelles ils fouettaient les femmes rencontrées sur leur passage et qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année afin de les rendre fécondes. En l'an 44, Jules César tenta de réformer ce collège et de donner un nouveau sens à cette réjouissance populaire, mais sa tentative échoua et la fête perdura. C'est finalement en 494 que la dernière Lupercale est fêtée car le pape Gélase Ier interdit cette fête païenne. Il choisit alors Saint-Valentin comme saint patron des fiancés et des amoureux et décrète que la date du 14 février serait retenue. Pourquoi ? Parce qu'elle correspond au jour où trois saints, tous trois nommés Valentin, se sont fait martyrs. Bon, Et Cupidon, qu'est-ce qu'il vient faire dans tout ça? C'est lui qu'on associe à la Saint-Valentin parce qu'il est le dieu de l'amour. Cupidon est souvent représenté sous la forme d'un ange. Ses attributs sont un arc, un carquois, une fleur et des ailes. Avec son arc, il envoie des flèches censées représenter les pointes du désir dans le cœur des dieux et des hommes. Donc, depuis l'an 494, la Saint-Valentin se fête le 14 février sous l'égide de Cupidon. Les premières traces pré-moyenâgeuses de coutumes galantes associées à la fête courtoise, comme on la connaît un peu plus, datent du XIVe siècle en Angleterre, où naît la coutume de l'échange de cartes et de billets doux entre le Valentin et sa Valentine. Détail à noter ayant toute son importance, en 1496, l'Église veut combattre la tradition du valentinage. Donc le valentinage, c'est une coutume par laquelle, une fois l'an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Finalement, la Saint-Valentin comme fête commerciale se développe aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets que s'échangeaient le Valentin et la Valentine. À l'envoi de billets au XIXe siècle a succédé l'échange de cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne, où la carte de Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Là, elle peut être envoyée à toutes les personnes aimées, que ce soit l'amoureux ou les personnes extérieures au couple qu'on appellera amant ou amante. On a donc doucement mais sûrement basculé d'une fête païenne inspirée par la terre et sa fécondité et les saisons, à un rituel amoureux envers plusieurs personnes pour finalement arriver à une fête figée par le capitalisme dans une éthique religieuse tout à fait étriquée. Ce modèle étriqué est remis en question de nos jours car on se rend compte qu'il est possible de vivre autrement une relation. Ce qui se passe dans le couple monogame est basé sur un duo figé. Aucune autre relation n'est possible à l'extérieur de ce couple. S'il devait en exister une, elle serait de l'ordre de la tromperie. Au cas où la tromperie survient, s'ensuit des scènes de jalousie, désaccord, tourment, et on peut aller jusqu'à la séparation du couple. S'ensuivra une nouvelle relation de couple, tout aussi monogame et basée sur le même schéma. Qu'est-ce que cela vient dire de nous, de l'appréhension de nos schémas amoureux, de l'amour qu'on se porte à soi-même et qu'on porte à l'autre ?
How it will be. Me and her, or you and me. You both stand there with your long hair. Your eyes are light, your minds are still growing, saying to me, what can we do now with you? I love you too. Embarrassed to no one has ever in your life said such a thing to you.
mother's ghost stands at your shoulder. A face like ice, just a little bit colder, saying you cannot do that, it breaks all the rules you learned in school. But I don't really see, why can't we go on as three? We love each other. Just one answer that comes right away to my mind for me. Sister lovers, you heard about water brothers. Maybe in time. So you see, what we can do is to try something new. If you're crazy too, I don't really see, why can't we go?
Chanson de David Crosby, Stills, Nash et Young. Vous êtes sur Radio Diwa, l'écoute alléchée. Ah, léchée. Alors, l'amour non exclusif. J'entends déjà des dents qui grincent. Oh, Saint Graal de mes relations amoureuses. En fait, non. Je ne suis pas là pour faire l'apologie ou le dénigrement de l'amour non exclusif, mais simplement pour essayer de l'accueillir d'une compréhension douce et suave, comme cette peau que l'on fond de caresser sans fin de délicatesse. Car le sujet est délicat. Il touche à l'amour, sujet des plus subjectifs. Tu me parles de ton amour, je t'écoute, je t'entends, je sens le mien et j'imagine. Tu me parles du soleil et je le vois, je le sens et je comprends qu'il est plus facile de se mettre d'accord sur ce qu'est le soleil. Je me sens attiré par toi comme la terre au soleil, dans cette sérénité qui nous semble éternelle. Mais si l'on y regarde de plus près, qui ne parle pas d'exclusivité. Ô terre, vous n'êtes pas seul et vous attirez vous-même. Depuis longtemps, j'apprends à aimer. Je cherche à comprendre, à savoir ce qu'il est bon pour moi et pour toi et pour nous de faire, d'être, d'écouter. Alors j'ai demandé autour de moi, comment bien aimer? C'est quoi pour vous aimer? Et là, mes amis m'ont répondu des mots bien différents. Pour l'une, c'est la dévotion, le dévouement, un mot fort. Pour l'autre, c'est grandir ensemble, ce qui implique une profonde honnêteté et remise en question, savoir accepter et dire. Pour un autre, ce n'est rien demander, laisser libre. Une autre, la tendresse et la compréhension. Et encore une autre, le respect. Pour moi, c'est prendre soin. Et c'est aussi tout ce qu'ils m'ont dit. Vos façons d'aimer sont dans mon amour. Nos façons d'aimer sont dans l'amour de chacun. Et nous mettons en avant certains de ces éléments comme on appuie sur les touches d'un piano ou l'on caresse une corde de guitare pour composer à chaque relation la mélodie qui lui est propre, à deux. Plus je me connais et plus mes amours sont sains. Enfin, presque. Il y a parfois des petites rechutes étonnantes. En lisant un livre sur la permaculture humaine, je me reconnecte à cette idée de diversité des écosystèmes, à leur résilience, à leur richesse et leur équilibre. Et je sens que cette diversité aide à mon bien-être. En fait, l'exclusivité n'existe pas. Car quand j'aime Charlotte, j'aime aussi mon père. J'aime jouer du piano, j'aime danser avec les fleurs, j'aime manger du chocolat, j'aime jouir, j'aime voler en parapente, voler dans les grands magasins. Et tous ces amours qui emplissent ma vie font de moi une belle salope. Alors pardon si j'utilise la version féminine, mais je trouve que ça claque vachement plus qu'un beau salaud. Tout ça pour dire que l'amour non exclusif inclut l'amour exclusif. C'est toute la même chose. C'est l'amour. Et l'amour de soi. Alors là, je sais, c'est showtime. Eh bien, l'amour de soi, c'est possible. Et c'est un amour sain, léger comme une brise dont on peut sentir l'absence, tout en sachant qu'il est toujours là et il souffle. C'est showtime car perso, j'ai dû attendre que la Terre tourne 26 fois autour du Soleil pour le sentir à nouveau. Et franchement, je pensais que ça n'existait plus après l'adolescence. J'ai commencé à me dire, ok, faute de m'aimer, je vais commencer à passer moins de temps à me détester. Ça l'a un peu fait. Alors chacun sa recette et il est bon de se les partager, mais le jour où je me suis aimé sainement, toutes ces valeurs que l'on souhaite donner à l'autre, le dévouement, l'honnêteté, l'acceptation, la liberté, la tendresse, la compréhension, le respect et prendre soin, je me les suis données à moi. Et du coup, je peux les donner de manière encore plus belle aux autres. Et je suis moins dépendant de votre amour. J'ai confiance en votre amour, car il est comme cette brise dont on peut sentir l'absence en sachant qu'elle est toujours là et elle souffle. Alors, il serait beau de m'arrêter ici, mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que à peine maintenant, il m'est possible d'aimer comme il m'a semblé instinctivement juste de le faire depuis si longtemps, mais que je n'étais pas capable d'appréhender. Pour cela, il m'a fallu aussi comprendre le détachement et pour cela accepter l'illusion totale dans laquelle je vis. Nous nous sommes mis d'accord pour voir le monde comme on le voit. Il est pourtant unique pour chacun de nous et il est composé de 99% de vide. Je vous l'accorde, c'est vachement bien fait. Mais nous sommes autre chose. Alors quoi ? C'est à chacun d'entre nous d'aller chercher et puis on pourra en parler. L'important, c'est que cette idée d'illusion sert à se libérer du connu, à s'en détacher, à ne plus être affecté par lui et donc nous permet de l'observer, de le comprendre pour l'embrasser comme on le souhaite, pour en faire ce que l'on aime. Voilà, j'aimerais bien vous laisser continuer. On va écouter une petite musique.
C'est parti.
Les nuits sont longues, les jours sont chauds. Vous êtes toujours sur l'écoute alléchée, RZWA 107.5. On vient d'écouter Le temps est bon dans une version remasterisée par Isabelle Pierre. Alors, c'est Coriandre et je vais vous lire un petit témoignage. Un soir, dans une cuisine de tomates ocre, j'ai rencontré un homme. Le premier eye contact a suffi à nous rendre tous deux conscients du potentiel bazar qu'engendrerait la fusion déjà en branle de nos deux êtres. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés seuls au milieu d'une foule joyeuse. Peu importe ce qu'il s'est passé, peu importe d'ailleurs ce qu'il aurait pu se passer, nous savions qu'au petit matin, nous ne pourrions plus nous revoir. À chaque seconde de ces heures, nous nous sommes aimés, sans en dire un mot. C'était d'une beauté sans limite. Et à la première tentative de nous quitter, il a posé une phrase sur notre amour, créant un des plus gros bugs jamais enregistrés dans mon cerveau. Il me reste les souvenirs de nos corps dansant hilar, le sentiment apaisé que nous avions assisté à l'avènement de notre amour et l'épaisse pluie qui n'a pas su dissimuler mes nerveuses larmes. Peu importe ce qui pourrait être redit sur cette soirée, peu importe aussi ce qu'il s'est joué pour lui comme pour moi. On s'est aimé, très fort. Nos âmes avaient le besoin foudroyant de jouer l'une avec l'autre. Une dernière fois, je l'ai regardé et je suis allée prendre mon train. Combien d'hommes ai-je ainsi laissé ? À l'exception près que ce coup-ci, l'histoire se terminait vraiment ici. Pas de suite possible. D'un amour aussi chamboulant, c'est la seule fois où j'ai senti que nous avions vécu tout ce que l'on pourrait vivre. De sa personne, aujourd'hui, je n'ai en tête plus que le prénom, qu'il m'arrive même d'oublier par moments. Et des fois, je me demande si je reconnaîtrais son visage, si nous nous croisions à nouveau. Jamais aucun mot inventé ne permettra de nommer ce qu'il s'est joué cette nuit-là, dans le décor de cette ville lointaine, sous les yeux aveugles ou en tout cas détournés de nos compagnons, puis sous ceux complices des passants dans la rue, entre tous ces murs qui nous encadraient. Si j'avais été dans une relation de couple monogame exclusif, je ne pense pas que je me serais laissé vivre cette histoire. Alors, installée dans le train, le cœur planant dans les nuages qui survolaient la mer, j'ai une fois de plus chéri le fait d'être non monogame. Ce fonctionnement fait tellement sens avec mon cœur. Cette manière de vivre ma vie sentimentale et sexuelle me procure un délicieux élan de réalisation et un certain épanouissement, un genre de liberté d'esprit et surtout une liberté de rêver qui me sont indispensables. Disons qu'ainsi, j'ai l'esprit et le cœur qui sont joyeux. Au quotidien, je fréquente des personnes qui m'intéressent et avec qui je me sens à l'aise. J'aime pouvoir rouler des pelles parfois, caresser un sexe, que l'on caresse le mien, tout ça avec des personnes qui en ont envie, à un moment où j'en ai envie aussi. Avec toutes ces personnes que je fréquente, j'entretiens des relations humaines. À mes yeux, ces relations n'ont pas de durée ou de forme déterminée. Je veux dire qu'elles peuvent partir dans toutes les directions possibles, elles restent un mouvement comme un autre, en constant changement. Et même si je ne suis jamais vraiment convaincue de leur appellation, j'aime nommer toutes ces relations car pour moi une chose nommée existe davantage et que je ne vois pas les étiquettes comme dangereuses tant qu'on n'entrave pas leur possibilité d'évoluer. Ce que je cherche, c'est l'enthousiasme mutuel, la recherche du moment doux, l'endroit de la parole libre, l'envie en fait de passer un morceau de notre temps ensemble quand on se sent disponible pour. Je vis toutes les rencontres, les retrouvailles, dans la plus grande simplicité et à la fois dans le plus grand chamboulement émotionnel. Alors je veux garder l'espace de pouvoir vivre tout ça en harmonie avec mon cœur, et en cela le célèbre couple traditionnel monogame exclusif ne me permet pas l'environnement qui m'est nécessaire. En tant que femme, j'ai été conditionnée à penser, à ressentir au plus profond de mes tripes que mon domaine de potentielle réussite, ce serait ma vie sentimentale. Que peu importe toutes les choses géniales que je pourrais faire durant mon temps sur Terre, la seule qui me permettra réellement de m'épanouir, c'est de me consacrer à mes relations amoureuses, que je n'ai de valeur que si un homme s'intéresse à moi et que cette valeur augmentera si je deviens sienne. Je n'ai pas envie d'accepter ce conditionnement, et j'en profite pour rejeter la prétendue nécessité à être en couple, car je ne la trouve pas saine. Je suis heureuse de ne pas être obligée de suivre des schémas de relations, des schémas de vie avec lesquels je ne me sens pas bien. Alors oui, ça prend du temps et de l'énergie de continuer toutes ces explorations, de me questionner encore et encore, d'observer, de sentir, d'essayer, mais c'est cette quête humaine et sa multitude de possibles qui m'intéressent. Une des grandes difficultés à laquelle je fais face, c'est que je n'arrive pas à gérer ma part d'hétérosexualité. Je suis constamment tiraillée entre mon attirance pour certains hommes et l'appréhension des situations problématiques que cela amène s'ils deviennent mes amants. Par amant, j'entends partenaire, ou potentiel partenaire, sexuel et ou amoureux. En effet, même si j'entretiens avec ces certains amants de superbes relations humaines, je trouve que ce n'est que trop rarement fluide. Je m'explique. Il y a beaucoup de situations dans l'intimité où je suis constamment renvoyée à une place de femme qui serait inférieure à celle de l'homme. Par exemple, même pour un amant avec qui faire du sexe peut être un chouette moment, il arrive bien trop souvent que je doive garder mon cerveau en alerte, car je ne peux que constater que l'homme qui est sous la couette à mes côtés considère avoir le pouvoir sur moi, et cela sans même qu'il en ait conscience. C'est grave et épuisant, ça manque d'équilibre, ça dégoûte, et ça ne me donne qu'une envie, envoyer balader tous ces messieurs. Et c'est alors que bon nombre des relations que j'entretiens avec mes amants me collent sous le nez une réalité terrifiante. C'est que dans ma vie, je ne suis que trop peu radicale et intransigeante. Ça me rend triste car ça m'empêche de prétendre à mes exigences. J'aimerais être intransigeante sur bien plus de choses. Par exemple, ne jamais aller en deuxième date avec un homme qui a eu un propos problématique envers les femmes et qui a soupiré quand je l'ai fait remarquer. Ou ne jamais recoucher avec un homme avec qui je ne me suis pas sentie considérée en tant que sujet au lit. Et aussi, arrêter de remercier les hommes au moindre signe de respect basique qu'ils me portent. Au fait, je voudrais parler de quelque chose qui n'a peut-être rien à voir, mais qui a peut-être à voir quand même. Je crois que je n'aime pas être amoureuse. Pour en parler rapidement, je dirais qu'il y a des personnes pour qui j'ai des sentiments dits amoureux. J'ai envie d'être en leur compagnie car je m'y sens en sécurité, j'ai envie qu'on s'embrasse, qu'on se fasse des câlins éventuellement sexuels, je suis en amour quand elles s'expriment, etc., etc. Ces sentiments-là peuvent éventuellement me convenir. Mais je dirais que des fois, il existe aussi un état amoureux, un boom émotionnel très plaisant avec tout un tas d'hormones qui font planer très haut. Je n'apprécie pas l'impact qu'a sur ma vie cet état-là. Moi, je redoute les choses qui m'écartent de mon propre développement. Enfin, surtout qui me rattachent à un autre humain, car j'ai le constant besoin de me sentir le plus autonome possible. Ce que je veux, c'est devenir la femme de mes rêves. Ça demande du travail et donc du temps et un cerveau bureau dégagé. En résumé, les hommes prennent beaucoup trop de place, que ce soit dans l'espace public ou dans mon intimité. Pendant que je réajuste donc mes fonctionnements personnels, j'ai plaisir à imaginer mon parfait équilibre de vie relationnelle en ce qui concerne l'aspect sentimental et sexuel. Je peux aisément le visualiser car je sais ce qui serait idéal pour moi à l'heure actuelle. J'ai le droit de rêver et c'est important que je le fasse, mais il me faut dealer avec le concret de la réalité. Et oui, avec le fait qu'il n'est pas évident de trouver des partenaires éveillés qui remettent un minimum en question leur conditionnement, qu'il est encore moins évident d'en trouver avec qui partager le mode de vie qui nous convient, et que des fois aussi on rencontre quelqu'un ou quelqu'une de super avec qui on a envie de se laisser vivre quelque chose d'émotionnellement et physiquement intime, malgré qu'il soit clair que nos fonctionnements ne sont pas compatibles. On doit alors redoubler d'attention car le crash peut être douloureux. Le concret de la réalité, c'est aussi que j'ai toujours été non monogame et que je ne suis clairement pas disponible pour que cela change tout de suite. Pour autant, je ne suis pas contre la monogamie ou l'idée d'un jour m'engager avec une personne dans une relation dite de couple, à condition d'une vision commune de ce que serait notre couple, j'entends. Ces réflexions me brassent parce que même si le plus souvent je me délecte de mon autonomie et de ma solitude, il arrive parfois des jours où je me sens isolée. Des jours où il m'est instinctif de fantasmer partager plus souvent mon lit avec une personne à qui j'aime faire des gâtés, avoir quelqu'un ou quelqu'une d'amoureuse avec qui partager une bonne soupe, regarder un film en silence ou lire côte à côte. Alors ces jours-là, je me questionne sur ce pourquoi je suis prête à mettre de l'énergie. Je me demande ce pourquoi je suis disponible et enthousiaste. J'aime réfléchir à ce que je veux, savoir ce qui me convient et vivre ce qu'il m'arrive. Le tout en visant l'harmonie du ventre pour laisser la place à une infinie union des cœurs. L'autre soir, j'étais seule dans mon lit, il faisait nuit et suite à quelques inattendus SMS, je me suis préparée à ouvrir ma porte à un homme. Ce genre d'instant coupé du temps où la plus rocambolesque rêverie ne pourra jamais égaler les réels possibles. Je sautillais sur place, comblée de vivre selon mes bons désirs. Transcendée dans cette attente, mes lèvres se sont entrouvertes et s'en est échappé. C'est bon de pouvoir aimer. Dans mon cœur, cette exclamation s'est suffi à elle-même. Elle sonne comme l'explication la plus pure de mes désirs, attentes et idéaux. C'est bon de pouvoir aimer. Je l'embarque précieusement comme nouveau leitmotiv. Et en ce qui concerne toutes les histoires de princesses et de princes, est-ce que je rêve de trouver l'homme de ma vie ? Non, car j'ai déjà trouvé la femme de ma vie. C'est moi. Je suis une femme et c'est de ma vie dont il est question. Je suis donc la femme de ma vie. J'ai sélectionné pour nos oreilles une chanson de Billy Paul que j'adore écouter. Elle montre l'adultère, qui est une forme de non-monogamie mais par définition non consentie. Cette chanson raconte la vie, l'amour, le sexe et les relations. Ainsi, elle peut être écoutée comme une invitation à repenser nos manières de nous fréquenter. C'est parti pour Me and Mrs. Jones. Vous êtes toujours dans l'écoute alléchée sur RDOA au 107.5.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows you'll be there. Holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so do I. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We gotta be extra careful. We can't afford to build our hopes up too high. I wanna meet and talk with you at the same place, the same cafe, the same time. And we're gonna hold hands like we used to. We're gonna talk it over, talk it over.
Strong. Vous êtes toujours dans l'écoute alléchée sur RDIWA 107.5. Et c'est Soumak qui vous parle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui est venu jusqu'à moi. Donc, c'est un livre qui se dit être un guide pratique pour des relations libres et sereines. Écrit par Dossie Easton et Janet Hardy. Ce livre s'appelle « La salope éthique ». Je vais vous lire la quatrième de couverture. Salope, oui, mais éthique. Mais quelle était donc cette créature singulière? Quelle est cette salope autoproclamée et de surcroît dotée d'un sens éthique? Héritière du libertinage et de l'amour libre, la salope éthique fait l'apologie du polyamour, sans pour autant invalider la monogamie. Polyamour? Vous voulez dire polygamie? Pas tout à fait. Pour expliquer le polyamour, il ne suffit pas de prétendre à un libertinage. Il faut aussi respecter certaines valeurs, consentement et consensualité, limites personnelles claires et précises, respect de ses limites ainsi que celles d'autrui, communication honnête, désir de garantir le bien-être de l'ensemble des partenaires. Tous ces principes ne sont pas évidents à mettre en place et c'est la raison d'être de ce livre. Expliquer à chacun comment gérer et vivre pleinement et harmonieusement des relations polyamoureuses. Donc c'est un guide de vie qui concerne tout le monde, au-delà du sexe, du genre et de la sexualité. Dans la suite de cette émission, je vous lirai différents extraits. À plus tard.
Merci Soumak. On va passer maintenant à un témoignage. D'un ami qui m'a fait passer un écrit, donc que je vais vous lire, sur sa manière de vivre son couple, donc qui est plutôt tendance couple libre. Voilà, je vous laisse écouter et je reviendrai rajouter quelque chose juste après.
Quand on s'est rencontrés il y a 7 ans avec Pénélope, on était déjà en situation d'adultère, l'un comme l'autre. Depuis 10 ans, engagés avec un ou une autre. Et on s'est tout de suite dit qu'on ne croyait plus à ce boniment qu'est la fidélité. Aucun couple n'est fidèle toute la vie, sauf les cathos intégristes, et encore. Ou alors, peut-être que la fidélité existe, mais très rarement. Et on n'y croyait plus. Pour quelles raisons? D'abord parce qu'on aime beaucoup le sexe, et on était d'accord sur plusieurs points concernant la sexualité. Premièrement, on peut avoir de multiples partenaires tout en étant pleinement engagé dans une relation. Deuxièmement, être amoureux signifie avoir des projets ensemble, de tout ordre, et pas seulement faire l'amour. Troisièmement, le corps de l'autre ne nous appartient pas plus que son esprit. Et quatrièmement, faire l'amour demande de partager un minimum d'intimité et de complicité, des domaines qui ne sont pas exclusifs au couple. L'exclusivité, voilà ce qu'on ne voulait pas. S'épanouir dans la vie sans s'interdire des choses, avoir une vie riche en dehors du couple et dans le couple, découvrir les plaisirs ensemble et séparément. Le seul interdit entre nous devait être la jalousie. On était d'accord sur le principe. Dans les faits, évidemment, c'est plus compliqué. D'abord, parce qu'assez rapidement, on a eu un enfant. Par surprise et par désir. Et la vie avec un petit, c'est pas vraiment la gaudriole. Donc la mise en pratique a un peu tardé. On continuait à en parler, plutôt pour en rire, parce qu'on n'avait aucune place dans nos emplois du temps pour faire des rencontres. Après quelques années, j'ai senti l'envie de remettre le sujet sur la table. Et de fait, je me suis aperçue qu'elle aussi avait toujours les mêmes envies. On s'est aussi mis à discuter de libertinage, de pluralité, de plaisir partagé, sans trop savoir où on allait, mais avec une réelle excitation. Et alors qu'on ne baisait plus des masses, le désir est revenu. Un soir, j'ai rencontré une femme par hasard dans un bar. Mariée, elle aussi. On s'est beaucoup amusé et on s'est revu quelques fois. La première règle qu'on a mise en place avec Pénélope, c'est la même que le Fight Club. Ne jamais parler du club de l'infidélité. On sait qu'il peut se passer des choses, mais on ne raconte rien. Quel intérêt? On ne devait en parler que si quelque chose tournait mal. Oubli de capote, règle numéro 2. Histoire d'amour naissante, règle numéro 3. Envie de se séparer. Une autre règle, jamais dans le lit conjugal ou à la maison. Donc je voyais ma maîtresse ailleurs. Puis j'ai eu envie d'aller un peu plus loin. Je savais que Pénélope voyait un gars de temps en temps et j'ai voulu découvrir les clubs libertins. J'y suis allée plusieurs fois, d'abord avec une sex friend, puis tout seul, quand j'ai commencé à être à l'aise. Cet endroit m'a plu. Cosy, avec une balnéo et un sauna. Agréable autour du bar ou dans l'espace fumeur. Sympa pour discuter avec n'importe qui. Une population très très variée. Très excitant aussi à l'étage, dans les alcôves, certains entrouverts, d'autres fermés, voire même totalement open sur un grand liron. J'ai fini par raconter quelques trucs à Pénélope. Et ça l'a intriguée. On s'est dit qu'un jour on essaierait, ensemble. On a commencé par prendre contact avec des couples via des petites annonces. Je sais qu'elle aimerait essayer avec une autre femme, mais on n'a jamais trouvé l'occasion. Mais l'enfant, mon taf à Grenoble, plus le confinement, ont rendu l'expérience difficile à organiser. Grenoble, justement. Pénélope m'a dit qu'elle se doutait bien que j'allais faire des rencontres. En effet, je n'ai pas traîné. J'avais vraiment besoin de ça. Parce qu'on sortait du confinement, d'une période difficile avec notre fils, et d'un chantier de près de 2 ans pour retaper une maison qui nous avait épuisés. À Grenoble, j'ai fait sauter tous les verrous. Donc ça a plutôt bien marché. J'étais content de pouvoir plaire à nouveau, mais sans engagement, en toute honnêteté, et de me créer un réseau de relations. Parce que ça ne finissait pas toujours au pieu. Je suis devenue pote avec des femmes rencontrées autour d'un verre. Je me suis fait chier aussi, parfois. Mais c'est le lot de nouvelles rencontres. Là où ça devient croustillant, c'est quand j'ai rencontré Sidonie. On a vécu un truc assez dingue, fulgurant. Et sans que je m'en aperçoive, des sentiments sont nés. Elle a commencé à m'en parler et je sentais que ça devenait tendu, qu'il ne fallait pas que ça aille plus loin. Pour Sidonie, après un temps d'acceptation, « Je veux bien être ta maîtresse », le contexte est devenu invivable. Je veux être la seule, je veux pas te partager, j'ai besoin d'être entière et de m'afficher avec toi comme un vrai couple. Pour le coup, j'étais en train de briser la règle numéro 3. Il me fallait donc faire un choix. Je ne cache pas que ça a été très douloureux. Au final, ma décision était la suivante. J'aime toujours Pénélope, je veux voir mon fils grandir avec elle, ma famille ne mérite pas de traverser cette tempête. Sidonie n'aime pas l'amour libre, elle est exclusive, elle ne peut donc pas être ma compagne. Je ne peux pas tout casser pour une femme qui ne partage pas cette philosophie. Car la jalousie n'aurait pas manqué de faire son grand retour, je le savais. On a donc rompu avec Sidonie, et j'ai parlé à Pénélope. Je lui ai tout raconté. Elle a eu un choc et elle a beaucoup souffert. Beaucoup. Nous avons longuement parlé de nous, de notre avenir, de nos règles de vie, de nos aspirations, de tout. Au bout de quelques semaines, elle a peu à peu repris confiance. On a refait l'amour comme des bêtes et elle m'a dit que j'avais bien fait de lui parler, que rien n'aurait été pire que le mensonge dans un cas comme celui-ci. Elle m'a même dit « Je savais que tu allais faire des rencontres à Grenoble, mais je misais plus sur la quantité que sur la qualité. » Comment ne pas tomber d'amour pour une femme comme elle ? Le bilan que je tire de cette expérience, plein de choses. D'abord, qu'il ne faut pas toujours suivre son cœur. Il faut savoir écouter la petite voix qui nous met en garde contre les décisions hâtives. On peut vivre des situations de polyamour, c'est le risque que nous avons accepté de prendre avec Pénélope. J'espère que si ça lui arrive, j'aurai la force qu'elle a eue pour l'accepter et qu'elle aura la force de m'en parler avant que ça ne remette en cause notre couple. Finalement, c'est un test pour notre amour. D'autant plus que chaque rencontre est unique. On peut ressentir un attachement, avoir des sentiments sincères très variés, se plaire avec quelqu'un et vouloir partager de bons moments, pas seulement au lit, sans pour autant tomber amoureux. Inversement, on peut tomber amoureux sans devoir tout plaquer pour cette rencontre. Il n'y a pas de règle, juste un jeu de l'amour qui nous permet de mieux nous connaître et de vivre pleinement cette courte vie à partir du moment où l'on se respecte soi-même. Certains trouvent ça inconscient, inconséquent, absurde, tout ça pour pouvoir continuer à les baiser à droite et à gauche. Ce n'est pas du tout la conclusion que j'en tire. J'aime rencontrer des femmes, avoir plusieurs relations suivies, plus ou moins intenses, plus ou moins engagées, mais je reste fidèle à mon couple et à mon foyer. Pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres expériences comme celle-ci contribueront à nous renforcer ou finiront par nous détruire. Mais au final, combien de couples se démolissent sans pour autant vivre cette liberté sexuelle et sentimentale que nous nous sommes accordés? Est-ce que le sexe doit être la boussole de nos vies et de nos décisions? Comment l'amour peut-il évoluer dans l'infidélité acceptée? Je trouve ces questions bien plus intéressantes à vivre que de poser la règle de la fidélité et aucune autre. Beaucoup de mes amis m'ont avoué être incapable de se mettre dans une telle situation et me disent que je me mets en danger. D'autres comprennent que j'ai toujours été comme ça et que j'ai trouvé avec Pénélope mon alter ego. Je ne prêche pas pour les autres et je ne dis pas que cette vie est une solution à la question du couple. On pourrait parler pendant des heures du couple moderne, de ses injonctions contradictoires et de l'absurdité d'un mode de vie libéral où l'individu et son épanouissement priment, où la tentation sexuelle est omniprésente, alors que le couple est plutôt synonyme de contrainte, d'interdit, de repli sur une zone de confort. Je ne nie pas l'importance de ces règles et de ce confort rassurant. Juste, je pense qu'on peut lui donner un autre élan. Je nous vois comme une génération charnière entre le monde d'avant, où seul l'homme pouvait se permettre d'avoir des maîtresses, et celui de demain, où le couple sera d'abord une amitié sexuelle et durable, fondée sur un pacte solidaire. Et non sur un mensonge, celui de ne désirer qu'une seule personne et de posséder son âme et sa vie. On a tous droit à plusieurs amours, plusieurs vies, et on n'est pas obligé de tout remettre en cause quand une nouvelle passion survient. Ce choix de rompre, ou pas, doit obéir à d'autres considérations que le banal « tu m'as trompé, je te quitte ». Quelle bêtise quand on y réfléchit deux secondes. Bref, je deviens grandiloquent. Il est temps que j'arrête.
Alors, quand j'ai lu ce témoignage en fait, de mon ami, je me suis sentie touchée et du coup, je lui ai renvoyé un message où je lui ai dit qu'au travers de celui-ci, j'ai eu beaucoup d'affection en fait, qui ressortait pour Pénélope, donc sa compagne, et qu'elle était un exemple à suivre pour moi, enfin selon moi, parce qu'elle a su faire face à cette situation qu'on peut considérer de compliquée. Et du coup, je lui ai dit que j'avais beaucoup d'admiration pour elle et qu'elle devait sûrement s'aimer assez pour l'aimer autant. Et je trouvais ça beau. Voilà. Et je lui disais aussi que c'était un idéal à viser, de s'aimer soi-même. Et là, en fait, il m'a répondu en me disant que mon regard était intéressant parce qu'en fait, Pénélope, elle ne s'aime pas beaucoup. Et elle apprend à s'accepter et qui cède en fait mutuellement, mais que clairement, elle manque de confiance en elle. Et d'ailleurs, c'est pour éviter tout excès de dépendance l'un envers l'autre qu'ils ont mis en place cet équilibre. Et donc là, après, il m'explique que le soir d'avant ce message-là, en fait, elle a passé la nuit chez un gars que lui ne connaissait pas. Et il ne sait pas ce qui s'est passé, il ne veut pas le savoir et ça ne regarde qu'elle. Et que le soir donc, où ils se retrouveront, ils seront d'autant plus heureux de se retrouver. Et d'ailleurs, tout ça, en fait, ça pose la question de la jalousie. On va écouter Anis Étoilé qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui nous fait part en fait, de sa réflexion sur la jalousie. On écoute.
Comment parler d'amour non monogame sans évoquer la jalousie? Si certains chanceux ne connaissent que peu ce sentiment, la plupart d'entre nous le connaît trop bien. La jalousie peut se jouer dans nos relations sociales de quelque nature qu'elle soit, mais aujourd'hui nous l'aborderons plutôt dans le contexte amoureux. Alors, peut-on considérer la jalousie comme une preuve d'amour? Et la jalousie, est-ce innée? Les psychanalystes Françoise Coblence et Jean-Luc Donnet disent de la jalousie qu'elle appartient aux états d'affect normaux et que son absence correspond à un refoulement intense qui la rend d'autant plus agissante dans la vie de l'âme. Tout un programme. Et puis, ça veut dire quoi, états d'affect normaux? Qu'est-ce qui définit cette norme? Cette vision me semble bien fataliste. Norme, ça me fait penser à la société et à la dimension culturelle. Donc, tout ne serait pas figé. Une étude menée par plusieurs psychologues et visant à étudier les différences culturelles dans la construction de la jalousie a démontré que celle-ci est plus marquée dans les sociétés qui accordent une grande importance au mariage et qui ne tolèrent les relations sexuelles que dans le cadre conjugal, ainsi que dans les sociétés où la propriété constitue une valeur essentielle. Par exemple, chez les Mosso, une ethnie habitant le sud-ouest de la Chine, le mariage n'existe pas et les amants ne vivent pas ensemble. Basé sur un modèle matrilinéaire, donc ça veut dire que les enfants vivent avec la mère et la famille de la mère, Cette société jouit d'une grande liberté sexuelle. Hommes et femmes sont libres d'avoir autant de partenaires qu'ils le désirent. La jalousie existe a priori très peu et elle est considérée comme honteuse. Je ne veux pas dire que c'est le modèle idéal, mais cela montre qu'il existe d'autres façons de vivre les choses. Et si l'aspect culturel est déterminant, il y en a un qui me semble aussi important. Celui de la relation que j'entretiens avec moi-même. Pour moi, être jalouse n'est pas une preuve d'amour, et cela ne parle pas, finalement, du lien qui m'unit à une personne. Ce sentiment parle de l'image, de la projection que j'ai de moi-même. Si je me sens entière, fière de moi, épanouie, la place de la jalousie dans ma vie est moindre. Moins j'ai confiance en moi, plus j'ai d'insécurité, plus j'attends de l'autre qu'il me rassure, qu'il comble mes manques, qu'il panse mes blessures. Si ce sentiment concerne mon lien à moi-même, cela voudrait donc dire que j'ai le pouvoir de transformer cet état, de changer, d'évoluer. Car s'il y a bien un endroit où j'ai du pouvoir, c'est dans mon monde intérieur, où finalement, et malgré les schémas anciens et ancestraux qui me limitent, s'ouvre un terrain d'expérimentation et de possibles encore inexplorés. Chemin faisant, voilà que je me suis mise à rêver. Et si on élevait nos enfants dans l'amour d'eux-mêmes, dans la conscience qu'ils sont des êtres entiers et merveilleux, comme chaque individu, ça donnerait quoi ? Peut-être, j'ose, des êtres libres qui s'aimeraient assez pour aimer l'autre dans son entièreté et dans sa liberté.
J'ai envie qu'on réagisse tous là à ça, si vous en avez aussi, envie aussi.
Ouais, ben, moi en fait il y a plusieurs fois où j'ai entendu le mot idéal et on a un certain idéal qu'on essaye d'atteindre de nous et de se transformer, d'apprendre et... En fait, David, il me lisait un texte de Éric Barré, il y a un mois, peut-être, quelques semaines, où justement, il parle de cette vision d'idéal qu'on a de nous-mêmes et qu'on regarde comme ça en essayant d'atteindre. Et il dit que c'est une illusion qui nous empêche, en fait, de nous regarder nous-mêmes, comment on est maintenant, et donc d'apprendre qui on est et de se comprendre. Et qu'en fait, on est déjà parfait. Et donc, de se regarder, de s'apprendre, ça permet de s'accepter. Et en fait, de toute manière, on va se transformer par toutes nos expériences de vie. Mais c'est hyper important de savoir qui on est pour pouvoir prendre les bonnes décisions, comprendre ce qui nous arrive réellement dans cette illusion dont je parlais tout à l'heure. Et donc de faire peut-être des meilleurs choix. Voilà. Et je trouve que ça revenait avec l'idée de s'aimer soi-même et d'apprendre aux enfants qu'en fait, y a rien, ça va, ils sont déjà parfaits et qu'ils peuvent s'aimer et être heureux, quoi, en fait.
Ouais. Oui, c'est ça. Sauf que dans ce qu'on vit, peut-être au quotidien, c'est qu'on ne leur fait pas comprendre ça aux enfants. Et c'est là où c'est dommage. C'est qu'on leur demande toujours d'être plus comme ci, plus comme ça, et de ne pas être comme ci, pas être comme ça. Et qu'on brime un peu cet amour qu'ils ont envers eux-mêmes. Enfin, pour faire un lien entre les enfants, tout ce qui est du domaine de la jalousie qu'on peut ressentir au fur et à mesure des années... si forcément tu dis à un enfant tu vois il fait comme ça c'est mieux, l'enfant il va se dire ah ouais bah lui il fait mieux, du coup ça le rend jaloux et ça construit en fait ce truc de jalousie qu'après on peut reporter dans nos histoires amoureuses.
Il y a cette idée de comparaison dans ce cas.
Oui c'est ça,
en fait il se dévalorise, on revient à cette question d'estime.
C'est ça.
Parce qu'en fait en soi on peut entendre que quelqu'un a fait quelque chose de bien. Mais le problème, c'est qu'on va comparer et se dévaloriser en se croyant nous moins bien, quoi.
C'est ça.
Mais oui, c'est sûr que tout ce jeu de jalousie des enfants, il va se répercuter après. Parce que quand on est adulte, on est moins jaloux directement sur certaines choses. Mais en amour, là, c'est un peu plus difficile.
Ouais, c'est ça.
C'est les relations amoureuses qui catalysent.
Voilà, la jalousie.
Ouais, qui font ressortir cet aspect-là, en tout cas. Ouais.
Du coup, dans le livre, La salope éthique, il parle quand même de la cartographie de la jalousie. Et je vais vous citer un peu. Écoutez votre jalousie. Elle vous en apprendra beaucoup. La jalousie peut vous mener là où ça fait mal. Là où vous avez le plus besoin de consolation. Laissez-la vous guider vers le côté obscur, puis vers l'épanouissement personnel. Si vous la laissez faire, la jalousie peut vous apprendre comment vivre en paix avec vous-même et avec le monde entier. Pour beaucoup de gens, l'obstacle le plus difficile à l'amour libre est l'émotion appelée jalousie. La jalousie est un sentiment extrêmement désagréable et la plupart des gens font tout leur possible pour l'éviter. Pour notre part, nous pensons qu'ils ne remettent pas assez en question le pouvoir destructeur de la jalousie et que d'ailleurs, ils donnent à leur jalousie beaucoup plus de pouvoir qu'elle ne le mérite. Nous qui avons réussi, après des années de pratique, à composer avec elle,
Nous avons tendance à oublier que la société pense qu'il est acceptable de divorcer, voire d'assassiner son partenaire ayant commis le crime impensable de nous avoir rendus jaloux. Soulignons ici que la monogamie n'est pas un remède contre la jalousie. Qui n'a pas été terriblement jaloux du travail qui accaparait notre partenaire ou de sa décision de passer du temps sur Internet plutôt qu'au lit avec nous ou bien du match de football ? Beaucoup de gens pensent qu'être possessif est inhérent à l'évolution individuelle et sociale. Ceux qui croient ça utilisent alors naturellement la jalousie comme excuse pour sortir de leur gond et agir de manière insensée, irresponsable et non éthique. La jalousie semble autoriser quelqu'un à bloquer son cerveau en mode pause sous prétexte qu'il agit alors par instinct. En réalité, peu importe que la jalousie soit innée, culturelle ou les deux, ce qui compte, c'est qu'il est possible d'apprendre à la changer. Du coup, j'avais envie de lire quelque chose qui se trouve plus loin dans l'ouvrage et qui, justement, quand on est conscient qu'il y a cette question de la jalousie à gérer, à appréhender, à connaître, on essaye de se mettre d'accord, en fait, de mettre des règles, de se mettre d'accord pour se protéger et se créer un cocon de sécurité, tout en essayant de vivre des relations libres et multiples. Alors, qu'est-ce que la base d'un bon accord ? Selon nous, la seule caractéristique d'un accord réussi est le consentement. Nous appelons ça la collaboration active pour le plaisir et le bien-être de toutes les personnes concernées. Dans le cas du polyamour, les personnes concernées peuvent l'être de manière indirecte. D'autres partenaires, les enfants respectifs et toutes celles et ceux affectés par nos décisions. Pour parvenir à ce type de consentement actif, il est essentiel que toutes les personnes impliquées acceptent de réfléchir à leurs propres sentiments et de les communiquer. Ce n'est pas toujours facile, quelquefois les émotions ne veulent pas être ramenées à la surface et observées. Vous savez juste que ça ne va pas, sans savoir pourquoi. D'où l'idée dans le livre, là, j'explique un petit peu, en fait, de faire cette introspection par rapport à ses sentiments, voire même de se faire aider par des amis, des thérapeutes, et vraiment d'aller voir, en fait, et creuser, et d'avoir le courage, en fait, de faire cette démarche. Et après avoir fait cette démarche, on peut ensemble vraiment se mettre d'accord et discuter. Et lorsque des partenaires négocient leur accord, la plupart des gens commencent par faire la liste de tout ce que leur partenaire ne doit pas faire. N'embrasse personne sur la bouche, ne traite personne mieux que moi, etc. Si certaines interdictions sont bel et bien nécessaires, on doit quand même s'entendre sur quelque chose. Par exemple, des relations sexuelles avec les amis proches, les voisins, les collègues. Beaucoup d'accords dits négatifs visent en fait à vous protéger de la tristesse et de la jalousie. Ce n'est pas très productif, bien que nous admettions que de telles restrictions peuvent avoir leur place en tant qu'étape intermédiaire. Selon nous, les meilleurs accords pour protéger votre partenaire sont d'ordre positif. Faisons quelque chose de spécial ensemble ce week-end. Chaque fois que tu as mal, je trouverai le temps de t'écouter. Je te répéterai combien je t'aime encore et encore. Donc ici, on parle bien quand même d'amour de soi et comment l'autre peut vraiment faire attention à sa fragilité.
Je suis jalouse à en faire trembler les gens, à faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence, je pourrais flotter inerte, tu t'en balances. Et ça me rend, ça me pourrit, ça me rend dingue, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'envoies en l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Et même si je savais pas, j'imagine tout, c'est encore pire. Tu pourrais tomber amoureux, recommencer une vie à deux. Plus tu la désires et plus j'expire. Et ça me
que parfois des idées noires te traversent sans crier gare. Moi j'en ai un peu tout le soir, pourvu que le temps les écrase. Est-ce que tu penses encore à moi comme je pense encore à toi? Est-ce que tu souffres autant que moi? Si c'est moi, je te pardonnerai pas.
Salut, c'est Piment, et moi non plus, je veux pas qu'on me remplace. Alors, vous êtes sur RDIWA, à l'écoute à lécher, et on vient d'écouter Mademoiselle K avec sa chanson « Jalouse ». Donc, je vais vous lire un petit témoignage. Et... Alors, le polyamour, j'ai testé. Si j'étais malhonnête, je pourrais plutôt dire « j'ai détesté ». Mais c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé avec un chouïa de recul, c'est qu'on s'est cru plus fort que nos angoisses. Parce que franchement, quand tu fais l'expérience de l'amour libre, les angoisses, c'est comme le café du matin, ça devient une mauvaise habitude, dont tu te dis que tu vas te défaire, mais finalement ça reste et ça s'incruste dans la trame du quotidien. Donc cette relation, elle a commencé sur une note de légèreté. On sortait tous les deux de relations un peu longues, compliquées, on avait envie de prendre les choses tranquillement. Et puis, petit à petit, les sentiments ont poussé et aussi la crainte de reproduire les mêmes erreurs des relations précédentes. Du coup, on a choisi d'innover à notre petite échelle. On ne savait pas trop entre aventures permises en ponctuel, mais des aventures sans sentiments, bof. Ou alors une relation principale et plusieurs relations secondaires. On a exploré toutes les théories, et en théorie, quoi. Mais est-ce que c'est pas finalement un peu ambitieux, voire illusoire, de vouloir orchestrer les sentiments? Bref, j'étais bien amoureuse de lui, et puis lui aussi. Et à un moment, dans ce gros flou relationnel, parce qu'on avait tranché sur rien, j'ai flashé sur quelqu'un d'autre. C'était assez magique. Cet autre est apparu devant moi. Il n'y avait pas le nuage de fumée ni les paillettes, mais c'était tout comme. Et le hic, c'est qu'au bout de 5 minutes, j'ai compris qu'ils se connaissaient. C'était pas très feng shui. Donc j'ai freiné direct l'élan. On a beau dire, mais l'attirance, c'est pas trop facile à dompter. Et en moi se posait une grosse hésitation, un bon dilemme. À quoi bon être libre dans sa relation amoureuse? Si c'est pour mettre la bride quand il y a quelque chose qui donne vraiment, vraiment envie. Et voilà, donc sur le moment, j'ai décidé de ne pas poursuivre parce que ça semblait un peu fou. Et quelques semaines plus tard, lors d'une soirée folle, comme j'en fais pas souvent, l'occasion a été trop parfaite et j'ai craqué. Et voilà, est venu le moment des aveux, quelques temps plus tard. Et donc, mon amoureux l'a pas très bien pris. Il m'a dit qu'il allait falloir que je fasse un choix. Et puis, après réflexion, que non. Donc, je pense qu'entre peur de me perdre, jalousie, blessure, il a fini par laisser la porte ouverte. Mais c'était à contre-cœur. Et moi, j'ai revu cette apparition fabuleuse une autre fois. Mais j'étais pas à l'aise, pas sereine, et du coup, le moment était triste, en fait. Et j'ai réalisé que ça allait pas du tout. Et donc, j'ai décidé d'arrêter les frais et de tenter de réparer la relation avec mon mec. Du coup, à partir de là, en fait, on s'est retrouvé dans une sorte de vrille où l'insécurité de l'un cherche un appui chez l'autre et où les cœurs ne s'apaisent jamais. On s'aimait fort, mais on se cherchait sans se retrouver. Et c'est pas faute d'avoir parlé, ni de s'être donné de la tendresse, du plaisir, de la joie, etc. Donc il y a eu un moment, suite à ça, où on a penché vers une relation plus soft. Moi, j'étais très très attachée, mais sa confiance à lui, elle était effritée, elle avait pris l'eau, sévère. Et à un moment, il a voulu prendre de la marge, peut-être pour rétablir une sorte d'équilibre, je sais pas. En tout cas, il a eu une aventure que moi, j'ai assez bien digérée, parce que ça semblait bref et sans conséquences. Et quelques semaines plus tard, donc c'était un délai assez court, il a eu une autre aventure qu'il avait un petit peu organisé par avance. Et surtout, c'était avec une ex à lui, une fille qui le faisait vibrer super fort. Et moi, j'ai senti qu'elle avait une place toute spéciale dans son cœur. Et du coup, j'ai pas du tout encaissé. J'ai flippé. J'avais l'impression d'être vraiment insignifiante. Et j'avais plus envie de jouer à ça, quoi. J'étais pas en colère, en fait, parce que c'était notre deal. Entre-temps, on avait reparlé, on s'était dit que les choses restaient ouvertes. Et on s'est pas menti, en fait, à aucun moment. Mais je sentais que, vraiment, mon être profond avait pas du tout envie de vivre ça. Donc j'ai quand même pris le temps de voir si c'était possible de mieux le vivre, de m'apaiser, d'être heureuse pour lui et de conserver notre lien aussi. Et au bout de quelques mois, bah, j'ai pas constaté d'évolution de mes tourments. Alors bah, on a décidé de se séparer. Lui a été un peu déçu. Il pensait qu'on pouvait encore s'ajuster, trouver un accord en fait. Mais moi, j'ai senti que les sentiments, ils étaient complètement usés. Et du coup, j'étais plutôt soulagée qu'on se sépare. Donc, ma conclusion, c'est que le polyamour, c'est bien dans les grandes villes, quand il y a du monde, quoi, quand il y a peu de chances que les gens se connaissent les uns les autres. Et aussi, la recette, elle fonctionne mieux quand on a une bonne confiance en soi. Voilà. Donc pour nous, ça a quand même été intéressant, mais vraiment douloureux. Et je voulais juste ajouter que du coup, ça m'a permis aussi de mieux me définir dans ce que je voulais et dans ce qui me correspond. Et du coup, je suis vraiment contente aujourd'hui parce que j'ai un mec et que l'exclusivité, c'est pas un renoncement, c'est plutôt comme un cadeau qu'on a envie de se faire et qui ne coûte rien.
Merci Piment.
Je veux tout, toi et les autres aussi. Aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux
ça sèche et que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi.
C'était Ariane Moffat, Je veux tout, dans l'écoute alléchée au 107.5 sur RDOA. On va écouter maintenant une interview de Maëlle et Marie qui nous parlent de libertinage.
Moi, je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et voilà, je viens de Nantes à peu près.
Ok.
Voilà.
Je viens de la même région, mais moi j'ai 33. Et d'accord. Bah, c'est Maëlle du coup. Hein.
Ok, bienvenue à vous. Comment, alors on parle de libertinage, alors comment vous en êtes arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre histoire?
Bon, je vais commencer.
Vas-y.
Non, moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis mes 18 ans à peu près, voire même peut-être avant. Mais la vie a fait que j'ai pas pu parce que mes copains ne voulaient pas tester ce mode de vie. Et, bref, j'ai trouvé que récemment, je me suis retrouvée célibataire. Et du coup, une amie m'a proposé d'aller au Cap d'Agde sur les plages libertines. Je lui ai dit pourquoi pas. Et c'est là que je me suis lancée dans les clubs et depuis. Et le libertinage, du coup. Et depuis, j'y vais toutes les semaines, régulièrement.
D'accord. Alors, les plages libertines, ça consiste en quoi?
Les plages libertines, c'est le même principe qu'un club. C'est juste que c'est sur la plage. Il y a les plages naturistes, où on est juste tout nu, et tu as les plages libertines, où on est tout nu, mais il y a de l'action.
D'accord.
Voilà.
Et c'est des plages qui sont délimitées, j'imagine, ou comment ça
ouais,
se passe?
C'est tacite. En l'occurrence, au Cap, je ne connais pas toutes les plages non plus, hein. Je débute. Mais au Cap, il y a un bar, en fait. Donc, tout ce qui est avant, c'est naturiste. Et les gens savent que s'ils passent ce bar, ça devient libertin, échangiste, etc.
D'accord.
Et donc sur la plage ou autour, il y a des espaces créés pour pouvoir aller...
Faire des câlins.
Faire des câlins.
Pas du tout. Non, c'est à qui le veut, si tu vas dans les dunes ou sur la plage. Enfin, c'est très voyeuriste au final parce que tu es au milieu de tout le monde. S'il y a une action qui est entamée, enfin, moi je trouve ça assez drôle, c'est un peu comme un spectacle, mais ça peut paraître très... très grossier, très vulgaire, si on le place dans un autre contexte. Mais bon, il y a quelqu'un qui commence à faire quelque chose avec sa partenaire, son partenaire, peu importe. Et souvent, tu as des cercles d'autres personnes qui sont autour. Et si on peut parler crûment, oui, il y en a plusieurs qui vont se masturber. Il y en a certains qui vont essayer de s'inclure. Mais il y a une très grande force du non dans ce monde. Donc, ils vont essayer de s'approcher. Mais si d'un geste ou d'une parole, on lui dit que non, il ne va pas pouvoir entrer dans le truc, mais ils peuvent regarder, bien sûr, bah, il va s'écarter, il va partir, il va regarder. Quoi. C'est,
oui, et puis tu ne débarques pas là n'importe comment. Tu sais ce qui se passe quand tu arrives là, en tout cas.
Oui, les gens qui vont là-bas le savent. Enfin, ils vont très vite s'en rendre compte, en tout cas. Ils peuvent faire demi-tour après. Et par contre, ils font très attention à la, comment on dit, oh, c'est quoi ce mot? La vie privée. si jamais on voit quelqu'un avec un téléphone et tout ça, ça peut être très violent. Hein. Ils vont choper le téléphone, ils vont le balancer à la mer, le détruire.
Okay.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de venir faire des films pour après détruire la vie de ces personnes dans le monde réel, si on peut dire.
Ok. Voilà. Et les clubs, alors moi j'ai appris qu'il y a des clubs secs et des clubs humides.
Clubs secs et humides, ouais. C'est intéressant ça.
Alors parce que moi j'ai été curieuse quand tu m'as parlé de libertinage, Ginger, et j'ai été écouter un podcast et du coup qui parlait du libertinage et des clubs libertins. Et donc apparemment il y a des clubs secs où tu es habillé. Et où encore, il y a des dress codes qui sont existants et qui sont très hétéronormés, très stéréotypés. Et les clubs humides où il y a des saunas, hammams, et du coup, tu es en paréo et tu te balades à moitié nu, en fait. Toi, tu as testé lesquels ?
Plusieurs, en fait.
Ok.
Parce que il y en a un, je crois. Il y en a un que j'ai fait qui avait pas de sauna, mais en général, j'essaye d'aller dans ceux avec des saunas, c'est plus agréable.
Ouais.
C'est déjà pour nous, c'est pas cher, soit c'est gratuit, soit c'est 5 euros. Enfin, maximum, j'ai dû payer 10 euros en tant que femme seule.
Okay.
Mais c'est, s'il se passe rien, au moins on fait un sauna, on fait un jacuzzi, c'est très agréable.
Tu prends du bon temps, voilà, tu te relaxes.
Tout à fait sympathique. Alors, il y en a où on était tout nu direct. Enfin, mm-hmm. On entre, on doit se déshabiller, on est tout nu tout le temps. Il y en a d'autres, notamment celui où on va régulièrement, où on est plutôt habillé dans la zone bar. Après, bon, chambre, sauna, bien sûr, on est plutôt en paréo ou tout nu, peu importe, de toute façon. Mm-hmm. Et après, le sec, c'était pour tester, c'était un club sadomasochiste.
Okay.
Du coup, il n'y a pas de sauna, il n'y avait pas de ce genre de choses.
Et est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois où tu es allé soit sur une plage ou soit dans un club, comment ça s'est passé, comment tu t'es sentie ?
Première fois en club, moi j'étais avec une autre pote qui n'avait jamais été aussi. Elle a été très très inquiète, très anxieuse et elle me demandait si moi je l'étais et concrètement pas du tout. Je me suis juste dit je vais entrer là-dedans, je vais voir, si c'est pas mon trip je ressors et puis basta, il y a la plage, pire je fais du naturisme et puis ça sera très bien.
Ouais, ok.
Voilà, c'était pas plus dur que ça et puis on est entré, on a beaucoup kiffé, on s'est très bien amusé durant la soirée.
Ouais.
Voilà.
Et ça, c'était il y a combien de temps, du coup ?
Fin juin dernier, du coup.
Donc c'est assez récent.
Ah, très récent.
Toutes ces découvertes, ouais. Mais et t'as toujours eu l'envie, tu disais ?
Toujours.
Ouais.
Ouais, ouais. Toujours, mais j'ai toujours été plus ou moins en couple, du coup. Et j'ai toujours proposé à mes partenaires de le faire. Et ils n'ont jamais voulu. Et comme j'étais un peu coincée dans ce qui, pour moi, est un peu une morale catholique... de fidélité, que tout le monde te met dans la tête, il faut que t'aies qu'un seul homme, fidèle, blabla... Bah, j'étais un peu bloquée là-dedans.
Et oui, parce que ça n'empêche pas le milieu libertin. Tu peux faire de l'échangisme.
Ah oui, oui, oui.
C'est très ouvert.
C'est la plupart des gens qui vont là-bas sont en couple. Hein. Et il n'y a pas forcément beaucoup de gens seuls qui y vont. Ils y vont en couple et c'est très beau. C'est bien. C'est... Enfin, moi, pour moi, personnellement, je trouve que c'est les couples qui vont le mieux durer. Mmh. Parce qu'ils sont capables d'accepter ça. On en a notamment un... Il y en a un qu'on voit assez souvent et l'homme ne fait jamais rien. Lui, il vient, c'est sa femme qui va toujours à droite, à gauche, machin. Mais c'est son plaisir, quoi. Lui, il vient, okay. Il profite, elle revient, elle lui raconte ses histoires. Et puis là, elle repart et puis elle reviendra plus tard. C'est rigolo.
Marie, tu veux nous raconter un petit peu ton expérience ?
Oui. Alors, moi, j'ai connu le libertinage via... une connaissance. À départ, j'allais juste dans un bar à côté de chez moi pour boire un verre, pour en discuter avec des gens, dont Maëlle. Et au début, c'était plus la question de la pudeur. Dans cette situation, je savais pas trop comment je allais réagir. Et donc après, au final, quand on y va, genre, c'est très très simple. Il y a aucune barrière, il y a pas de limite. C'est juste,
donc, comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui accueille ?
Oui,
ou est-ce alors, que tu rentres comme ça tout seul ?
Non, on rentre...
C'est souvent sécurisé.
C'est sécurisé. Il y a une entrée, tu payes ton entrée. Comme, en fait, c'est exactement le même principe qu'un...
Une boîte de nuit.
Une boîte de nuit ou plus un spa.
Plus sécurisé qu'une boîte de nuit ou un spa. C'est pour ne pas laisser entrer n'importe qui.
Et donc Marie, donc tu parlais de ton expérience, donc tu étais au bar, donc t'es partie, t'étais avec des amis, c'est ça ?
Oui, j'étais avec deux hommes et Maëlle. Et on est entré, en fait c'est vraiment comme si on entrait à la piscine, tu payes ton entrée, tu arrives dans des vestiaires, tu déposes déjà ton sac à main, ton manteau ou peu importe, mais surtout ton téléphone, parce que voilà la question de la vie privée, comme disait Maëlle avant. Et on va au bar, mais tout habillé. Et après, on va du côté où il y a tout sauna, hammam, jacuzzi, et les chambres, et toutes sortes de chambres.
toutes sortes de chambres, tu veux dire, des chambres décorées différentes, enfin,
ouais,
qui stimulent une sexualité différente.
Il y a eu une extension qui s'est faite il y a un ou deux ans, je ne sais plus. Mmh. Et en fait, dans cette extension-là, il y a vraiment cinq chambres totalement différentes. Donc, il y en a une BDSM, il y en a une avec un miroir au plafond, avec des LED, voilà. Et il y en a une asiatique, je crois. Et ah oui, la romaine aussi, et celle qu'on appelle Harry Potter, on ne sait pas trop pourquoi, c'est juste parce qu'il y a un tiroir avec une jambe qui sort.
On n'a jamais compris. Oui,
Non mais ouais, et ça c'est vraiment les chambres vraiment très atypiques.
Et du coup, cette idée de libertinage, donc c'est quand même un concept, ça... là on parle de plage, on parle de lieu où vous allez, mais est-ce que vous le pratiquez à d'autres moments en fait dans votre vie, ou est-ce que ça, vraiment ça appartient à ces lieux-là?
Non, ça appartient, bon, après Marie dira son expérience, mais ça appartient pas qu'à ces lieux. C'est
voilà.
Le libertinage, c'est tout le temps, il y a des gens qui sont libertins, qui n'iront jamais dans les clubs, qui n'iront jamais sur ces plages, ils vont plutôt le pratiquer avec les sites, par exemple, ou avec des gens qui rencontrent comme ça, hein, et puis qui vont se rendre compte qu'ils aiment bien avoir ce genre de pratique. Et... enfin, c'est vraiment des rencontres humaines, donc ça peut se faire dans tous les cadres possibles. Personnellement, j'aime pas trop les sites. Et
Alors, les sites, c'est quoi? C'est des sites de rencontres que genre...
Des sites de rencontres spéciales pour les libertins, mais il y a encore un problème là-dessus entre le libertinage et des gens qui comprennent pas que ce n'est pas du libre sexe. C'est qu'il y a toujours une question de choix, de consentement, toujours. Et les gens ont tendance à oublier ça. Ils font juste, toi, t'aimes bien le sexe, alors moi, j'aime bien ça, alors on va le faire. Bah non, en fait. Non, on choisit.
Ouais.
Mais vas-y, sur la question de...
Ouais, de si le lieu...
est important,
oui,
capital.
Voilà. Non. pas forcément, parce que il y a aussi les soirées privées, qui sont très importantes aussi, je pense.
Alors, les soirées privées, tu peux nous expliquer comment ça s'organise, comment ça se met en place?
Oui, je peux. Je l'ai fait.
Super.
Ouais,
T'as organisé une soirée privée?
Oui,
ah, génial.
Au bout de combien de temps? Un mois et demi, je faisais du libertinage. Et là, à un moment, j'avais la maison pour moi toute seule. Du coup, on a commencé à se créer un groupe de potes dans le club. Du coup, je les ai tous invités à venir chez moi pour une soirée privée. Mais c'est une soirée normale, hein, c'est juste qu'il y a du cul en plus.
C'est explicite dès le départ. Donc tu envoies tes invitations en disant ça va être une soirée libertine, ou ça va juste être une soirée entre potes, qui peut tous dériver.
On se connaît tous du libertinage, donc.
Ah voilà, d'accord.
Donc c'était un peu évident.
Oui.
pour nous c'était évident.
On n'a pas pris de Molly, non.
Ah oui, les Molly. On racontera ça après. Du coup, au départ, on devait être une douzaine, et on s'est retrouvés à 17 chez moi dans une toute petite maison. C'était très sympa. Mais ouais, l'organisation en soi, c'est pareil que n'importe quelle soirée. On amène à manger, à boire, la musique, et puis...
Des préservatifs.
Ouais. Bien sûr.
Ah bah ça...
Les montagnes des préservatifs.
Du lubrifiant.
En fait... Pour revenir sur les soirées privées, là c'est une soirée privée mais qu'on a fait entre amis, donc c'est différent. Mais par contre, j'ai pas eu encore l'occasion d'en faire, j'aimerais bien, mais c'est vraiment des choses qui se font et qui sont la plupart du temps vraiment triées. On va regarder ton physique, oui, c'est con à dire, hein, mais bon, le physique ça joue quand même dans la chose. On va essayer de voir si t'es vraiment dans l'idée, si tu vas cadrer avec toutes les personnes qui sont prévues d'être invitées, etc. Et souvent, ça se fait dans des très grandes maisons avec piscine, enfin, où tout est du champagne et vraiment le stéréotype. Mmh. Mais vraiment, c'est en général ça. C'est souvent ça, quand ce sont des soirées privées organisées par un organisateur particulier, donc où tu connais pas les gens et tout ça. Après, soirée privée entre potes, bon, ça,
oui.
C'est...
D'accord.
C'est comme une soirée.
Il y a cette notion de consentement qui est hyper importante, hyper présente dans ce milieu-là, en tout cas.
Oui, tellement plus que dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie, pardon.
Ouais.
Dans la
que
vie,
sur Tinder et compagnie.
Ah oui, bien sûr. C'est tellement mieux.
J'en parlais à Ginger hier, c'est-à-dire que même quand tu te lances dans une action sexuelle, enfin que ce soit 3, 2, enfin peu importe, tu te lances dans une action avec une autre personne, et là, au milieu de la chose, tu n'as plus envie. Et ben tu lui dis écoute, je suis désolé mais là j'ai plus envie, vas-y. Normalement, un bon et vrai libertin, il va juste dire « Ok, pas de problème, c'était cool, peut-être on se reverra plus tard. » Quelqu'un qui n'est pas libertin va souvent pousser la chose « Ouais, allez, vas-y, j'ai pas fini, on était en plein dedans, on était bien. » Il va essayer de pousser. Mais normalement, vraiment, dans le monde libertin, voilà, même en pleine action, tu peux dire « Non, stop. » Et on rigole, et puis on va boire un verre, et puis basta. C'est vraiment très, très simple.
Ouais.
Ça qui est intéressant.
C'est quoi les moldus, les moldus?
Ah, les moldus.
Ah, les moldus, les moldus. Oui,
oui, pardon. En fait, les moldus, c'est... Moi, j'ai été moldue, ma mère a été moldue. C'est par exemple, moi, le premier soir où je suis allée en club libertin, j'étais la moldue d'un des gars, en l'occurrence. Ouais, et du coup, moi, j'ai été moldue parce qu'on ramène des gens qui n'ont jamais testé le libertinage dans ce milieu. Et on appelle ça des moldus.
Ah ouais, okay.
Donc, c'est l'introduction de quelqu'un qui va découvrir ce milieu du club. Donc, c'est un moldu. Il ne connaît rien. On
d'accord.
Doit
donc, on est tous moldus un jour.
On est
quand
tous moldus un jour, ouais, bien sûr.
Ouais. D'accord. Est-ce que, quand vous couchez avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des fois où vous êtes sentie un peu plus, peut-être, on va dire, amoureuse que juste de partager une relation sexuelle? Je ne sais pas. Est-ce que... Comment c'est cette approche-là?
La question, je pense qu'elle va être différente selon les personnes. Marie, elle n'aura peut-être pas la même approche que moi, mais pour moi, c'est marrant parce qu'on en a discuté avec une autre personne qui est libertin, et à chaque fois que j'ai des relations avec un homme, une femme, peu importe, je suis, à ce moment-là, je suis amoureuse d'eux. Enfin, personnellement, moi, je suis amoureuse d'eux à ce moment-là. Donc, je suis exactement comme si je serais avec la personne que j'aime. Après, je peux avoir aussi, enfin, si on est en contexte de club, je peux encore les embrasser, on peut encore se faire des caresses et tout ça. C'est vraiment un contexte amoureux, mais je ne suis pas amoureuse d'eux. Ça, c'est une grosse différence. Après, Marie, je ne sais pas.
Ouais, non, il y a une part de tendresse, je dirais.
Qui, quand même un peu. C'est quand même un acte tendre.
Ouais,
un jeu, tendresse. Mais un acte tendre.
Ouais, ouais, non, je dirais pas amoureuse parce que... Il n'y a pas de ça, on ne se pose pas la question, c'est juste comme ça. On sait tous qu'on est tous là pour la même chose et ça n'ira pas plus loin, quoi.
Et ça t'est jamais arrivé juste de flasher sur quelqu'un en te disant « Oh, waouh !» Enfin, physiquement, ouais, voilà, physiquement, il t'attire et que bah, sexuellement, ça se passe bien et que tu te dises peut-être quelques jours après « Oh, mais en fait...
» Bah, je tomberais souvent amoureuse, sinon. non, je ne me dis pas ça du tout.
Quelque part, tu t'empêches de tomber amoureuse ou c'est...
Oh, sûrement.
Ouais.
Je pense qu'on est tous dans la même optique. On n'est pas là pour tomber amoureux, du coup, je sais pas trop.
Ah bah.
J'ai une question justement. Vas-y. Du coup, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de revoir une des personnes
Ah mais oui,
ouais, c'est ça.
On en a plusieurs qu'on revoit régulièrement.
Ouais. Il y a des affinités quand
mais
même.
Mais ce sont des amis plus.
Okay.
C'est-à-dire qu'on s'entend très bien au niveau sexuel et au niveau juste comme ça de parler. Donc ce sont des amis, mais avec qui tu as des relations.
Et vous les voyez en dehors des clubs ou
ouais.
Ouais. Ça peut aussi. Ouais, ouais. Mais après, oui, ce que disait Marie, on n'est pas là pour trouver des relations, non. Mais moi, de toute façon, pour moi, la base du truc, c'est que tu ne cherches pas une relation. Elle arrive sur toi. Donc,
oui.
Si ça arrive sur toi dans ce contexte-là, moi, j'ai envie de me dire heureusement, vu qu'il sera sûrement d'accord dans ce mode de vie. Hein, ce serait un peu bizarre sinon.
Ce serait plus simple.
Même si moi, je considère que je suis amoureuse d'eux au moment de l'acte et tout ça. Mais je ne sais. Je pense qu'il y a plusieurs degrés d'amour aussi. Hein. C'est, quand on parle d'amour, la plupart des gens, ils sont « Oh mon Dieu, l'amour avec le grand A ». Mais non, tu as plein d'amour, d'amitié, de
oui,
différentes.
Oui.
J'aime bien employer le terme « jeu » parce que c'est vraiment un jeu. Si on peut dire, il y a l'exemple d'un ami à nous, Norman. Du coup, lui, il s'est trouvé une copine récemment. Qui est dans le milieu aussi libertin. Nous, on l'a connu avant qu'il trouve cette copine, mais on continue toujours à faire des choses avec lui aussi. Ils sont vraiment libertins, quoi. C'est pas, ça les empêche pas de continuer cette pratique.
Ouais.
Mais lui, il est amoureux d'elle, mais ça l'empêche pas d'avoir... Si on nous croise dans la rue, on peut croire qu'on est amoureux aussi, mais c'est pas le cas. C'est okay. Marrant.
Ouais, ça brouille un peu les pistes.
Et est-ce que ça change parce que moi j'ai déjà eu une expérience avec deux personnes et je me sentais plus détaché
avec deux femmes.
Ouais, une fois avec deux femmes, une fois avec une femme et un pote, un homme. Et je me sentais beaucoup plus détaché de l'acte, en fait, enfin, de la profondeur que ça peut prendre quand on est juste avec une seule personne. Mmh. Mais est-ce qu'il y a un détachement ? Est-ce que vous ressentez un détachement qui vous plaît là-dedans ?
Quand on fait des partous, souvent, c'est...
Oh, c'est plus une partie de rire qu'autre
ouais,
chose.
Ouais, c'est
hein,
ça, on passe c'est... plus de temps à rire.
Bah, tu sais pas trop, là, tu fais « Oh là, je sais pas où j'en suis !»
Et le rire, ça développe un certain plaisir ?
Bah, pour moi, oui, mais c'est parce que je ris tout le temps. Après, peut-être qu'il y en a, ça les fait chier. Je sais, qu'il y a ouais, certains partenaires, dès que j'explose de rire, ils me disent « Tu fais chier, mais là, dégage !»
Trop sérieux, les okay, gens.
Trop sérieux, trop sérieux. Non, mais c'est comme tout. C'est un milieu où il y a tous les goûts, toutes les possibilités. Mmh. Mais oui, faire des 1-1, faire à plusieurs, on fait tout. C'est juste l'action d'être libre au niveau sexuel, quoi.
Non, et est-ce que vous avez pris énormément de plaisir dans ces clubs ? Enfin, genre...
Au niveau de la jouissance ?
Ouais, voilà, par exemple, des orgasmes extraordinaires, mémorables. Ou...
Alors, je dirais que ça peut arriver. Enfin, personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais ça n'arrive pas forcément aussi souvent que le nombre d'actes sexuels que j'ai pu faire. Mais parce que après, moi, je ne pars pas du principe que ce n'est pas ça que je recherche particulièrement. C'est plus vraiment tout le plaisir du jeu, découvrir des nouvelles pratiques des fois, des nouvelles choses. Donc quand tu découvres, t'es pas encore trop calé. Mais oui, ça peut arriver, bien sûr. Hein. Il y en a un qui m'a vraiment très surprise un jour. Mais...
Okay, ouais. Donc le but, c'est pas l'orgasme, c'est tout le chemin qu'il y a avant, enfin, qui est plus intéressant.
Bah, c'est plus le jeu, pouvoir découvrir plein de nouvelles personnes et tout ça. Enfin, en tout cas, moi, oui.
Une nouvelle personne,
il faut réapprendre et tout ça. Donc... Dans le club, c'est la même chose. Tu vas sauter de l'un à l'autre. Et pareil, encore une fois, j'ai envie de dire qu'un bon... Il y en a, ils sont vraiment bons. Hein, qu'ils sautent d'une à l'autre personne, ils savent réagir directement et adapter leurs gestes et tout. Il y en a d'autres un peu moins. Et un bon libertin va se dire « Ok, dis-moi, vas-y, tu me guides, je le fais. » Un mauvais libertin va dire « J'ai toujours fait jouer des meufs, je sais comment faire. » Ben non, gars, ça marche pas.
Est-ce que les hommes ont des techniques pour se retenir d'éjaculer ?
Oui. Ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont des techniques. Alors, il y en a, pour revenir sur la technique, ils ont des anneaux qui retiennent... qui servent un peu, du coup, ça retient l'éjaculation et plus longtemps. Après, il y en a certains, au niveau mental, ils sont bien préparés, du coup, ils se retiennent bien, mais ils arrivent à... je sais pas comment ça se fait, hein, je suis pas un homme, mais... Ils arrivent à jouir sans éjaculer, mais à jouir plusieurs fois. Hein. Franchement, c'est un réel plaisir, plus que même d'éjaculer. Parce que quand ils arrivent à l'éjaculation, finalement, ça n'a aucun intérêt à la fin d'arriver. Mais parce que, voilà, ils font durer le plaisir et ils arrivent à avoir un plaisir de ouf.
Ginger, ouais. C'est quoi ton expérience de libertinage ?
Alors, je ne connais pas du tout. Non.
Tu as envie de devenir moldu ?
Je sais pas du tout, non.
Moi, ça me tente un peu.
Mm-hmm.
Ouais, même
rien que pour la découverte, vous trouvez un bon club dans la région ? Apparemment.
Alors, par ici, ah ouais ? Parce que moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, tiens, est-ce que par ici, il y a des clubs ?
Alors, je pense pas.
On va chercher.
Mais il faut chercher. On m'en a parlé d'un à côté de Grenoble. Et après, bon, sur Lyon aussi, il y en a un truc qui est très connu. Mais oui, vous cherchez un bon club qui est vraiment sympathique.
Il y a des références, on peut trouver des références ou juste...
Ah, bien sûr. Il suffit, Google est ton ami là-dessus, tu tapes club libertin, tu vas avoir la liste, tu vas chercher un peu par rapport au nom, ce qu'ils en disent. Voilà, et puis après, il faut tenter. Comme on disait, le nôtre, c'est vraiment, tu arrives la plupart du temps, tu as un côté bar... Tu peux ne rien faire du tout. Hein. De toute façon, tu n'es obligé de rien. Tu testes juste, tu vois l'ambiance. Et... Bon, je conseille quand même un sauna hammam parce que c'est
plutôt sympa. Quand même.
Voilà, et puis tu payes, si tu arrives en couple, voilà, vous pouvez y aller tous les deux. Et vous payez 20 euros. Franchement, concrètement, sauna hammam, ça coûte beaucoup plus cher dans les vrais instituts.
Clairement, oui.
Donc là, tu peux profiter.
Ouais. C'est vrai. Ok. Eh ben, merci. Merci, Maëlle. Merci, Marie. Et puis, qui sait, on deviendrait peut-être moldu un de ces jours.
Ou libertin.
En tout cas,
vous serez
libertin.
Forcément moldu. Mais...
Peut-être qu'on est déjà libertin, mais qu'on ne le sait pas. C'est ça. On ne se l'avoue pas, en fait. Hein.
Ah bah c'est ça, peut-être.
Ouais, hein. Ok. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Pour conclure, je propose qu'on abolisse carrément cette fête dans notre imaginaire, hein, parce que de là, l'enlever du calendrier, c'est pas gagné, et qu'on célèbre notre amour pour nous-mêmes et l'amour qu'on porte aux autres, de n'importe quelle manière qu'il soit, tous les jours. Une utopie, peut-être, mais à bien y réfléchir, peut-être pas tant. Du coup, prenez le temps justement de penser et réfléchir à la question jusqu'à la prochaine émission.
En tous les cas, cette émission, là, en l'écoutant, en étant présent, c'est vraiment un sacré voyage et, intérieur. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas ce qui se passe là dans mon inconscient ou dans mes tripes, mais je ressens énormément de choses. Et je vais repartir avec ça. Et ça va cheminer, je le sais, et ça chemine déjà. Donc, merci.
Moi, ça m'apporte du bien parce qu'en ce moment, je suis dans une période compliquée par rapport à mes relations sentimentales et sexuelles. Et du coup, c'est chouette parce que ça fait quelques semaines que je me complais dans mon mal-être. Et du coup, là, d'être avec d'autres mondes et de parler de ces sujets-là, ça me rappelle que, ouais, il y a un chemin qui peut être compliqué, mais que ça va bien se passer, quoi.
En fait, ces différentes expériences amoureuses, j'ai l'impression qu'elles se nourrissent les unes les autres. Autant la monogamie ou la polygamie. En fait, on explore dans chacune nos limites de différentes manières et on apprend. Et je trouve qu'elles se nourrissent l'un l'autre et c'est bon de passer de l'un à l'autre parfois dans sa vie et de simplement suivre et d'écouter et de voir ce que maintenant, qu'est-ce qu'on veut. Et... Voilà.
Mais moi, au-delà de ça, c'est ce que je dis tout le temps par rapport au polyamour, puisque pour le moment, franchement, je ne le mets pas en œuvre. Et moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est plus la posture intérieure, en fait. En fait, qu'il y ait un partenaire ou plusieurs ou même zéro. C'est... Ouais, même zéro, non ? Et ben, c'est comment je me sens libre. Ouais, c'est cette liberté de relation en fait, et que quel que soit ce qui se passe en face, ça ne vienne pas détruire mon rapport à moi-même. Voilà, et c'est ça que je trouve passionnant, et c'est ça qui m'intéresse, je crois, vraiment, du coup. Parce que c'est un vrai voyage, et c'est une vraie initiation, et franchement, c'est un vrai éveil, quoi. Voilà.
Donc, on vous dit bye bye.
Au revoir.
À bientôt.
Et joyeuse non Saint-Valentin.
Salut.
Je t'ai donné mon corps contre ton corps. Sans te donner mon cœur contre ton cœur. Je t'ai donné mon corps du soir jusqu'à l'aurore. Ne me donne pas ton cœur, j'ai trop peur du bonheur. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Je te donne mon corps sans que mon cœur se donne. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi. De toi j'ai folle envie, de moi tu as folle envie. Sans que nous vienne l'envie de partager nos vies. Seul le présent nous lie, restons sans avenir. Vivons comme si la vie était faite pour mourir. Caresse-moi j'adore ça, caresse-moi j'adore ça. Demain viendra l'oubli, emporté par nos vies. Caresse-moi, j'adore ça, caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi encore, encore et encore. Je t'ai donné mon corps d'amour et de désir. Il ne sera à toi qu'à l'instant du plaisir. Tu ne dois pas souffrir si moi je t'abandonne. Je ne veux pas souffrir si demain tu t'en vas. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Aimer à corps perdu, sans que nos cœurs frissonnent. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi encore, encore et encore. Que l'amour soit pour nous plaisir en liberté. Que car si nous sommes à nous, c'est pour mieux nous quitter. Je veux que tu m'oublies, car je veux t'oublier. Après m'être donné, surtout pas pour la vie. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Tant que nos corps se plaisent et que nos cœurs se taisent. Caresse-moi, j'adore ça. Caresse-moi, j'adore ça. Demain, tu t'en iras. Je ne te retiendrai pas. Caresse-moi, j'adore ça. Tiendrai pas.